Jules Verne, Sens dessus-dessous, chapitre 18, dans lequel les populations du Wamasai attendent que le président Barbicane crie « feu » au capitaine Nicholl. On était au soir du 22 septembre, date mémorable à laquelle l'opinion publique assignait une influence aussi néfaste qu'à celle du 1er janvier de l'an 1000. 12 heures après le passage du soleil au méridien du Kilimandjaro, c'est-à-dire à minuit, le feu devait être mis au terrible engin par la main du capitaine Nicholl. Il convient de mentionner ici que le Kilimandjaro était par 35 degrés à l'est du méridien de Paris et Baltimore à 79 degrés à l'ouest du dit méridien. Cela constitue une différence de 114 degrés, soit entre les deux lieux 456 minutes de temps ou 7h26, dont, au moment précis où s'effectuerait le tir, il serait 5h24 après-midi dans la grande cité du Maryland. Le temps était magnifique. Le soleil venait de se coucher sur les plaines du Wamasai, derrière un horizon de toute pureté. On ne pouvait souhaiter une plus belle nuit, ni plus calme, ni plus étoilée pour lancer un projectile à travers l'espace. Pas un nuage ne se mélangerait aux vapeurs artificielles développées par la déflagration de la mélimélonite. Qui sait, peut-être le président Barbicane et le capitaine Nicholl regretteraient-ils de ne pouvoir prendre place dans le projectile. Dès la première seconde, ils auraient franchi 2800 kilomètres. Après avoir pénétré les mystères du monde sélénite, ils auraient pénétré les mystères du monde solaire et dans des conditions autrement intéressantes que ne l'avait fait le français Hector Servadac, emporté à la surface de la comète Galia. Le sultan Balibali, les plus grands personnages de sa cour, c'est-à-dire son ministre des Finances et son exécuteur des hautes œuvres, puis le personnel noir qui avait concouru au grand travail, étaient réunis pour suivre les diverses phases du tir. Mais par prudence, tout ce monde avait pris position à 3 kilomètres de la galerie forée dans le Kilimandjaro, de manière à n'avoir rien à redouter de l'effroyable poussée des couches d'air. Alentour, quelques milliers d'indigènes venus de Kisongo et des bourgades disséminées dans le sud de la province s'étaient empressés, par ordre du sultan Balibali, d'assister à ce sublime spectacle. Un fil, établi entre une batterie électrique et le détonateur de fulminate, placé au fond de la galerie, était prêt à lancer le courant qui ferait éclater l'amorce et provoquerait la déflagration de la mélimélonite. Comme prélude, un excellent repas avait rassemblé à la même table le sultan, ses hôtes américains et les notables de sa capitale. Le tout aux frais de Balibali, qui fit d'autant mieux les choses que ses frais devaient lui être remboursés par la caisse de la société Barbicane & Co. Il était 11 heures lorsque ce festin, commencé à 7h30, se termina par un toast que le sultan porta aux ingénieurs de la North Polar Practical Association et au succès de l'entreprise. Encore une heure, et la modification des conditions géographiques et climatologiques de la Terre serait un fait accompli. Le président Barbicane, son collègue et les 10 contremaîtres vinrent alors se placer autour de la cabane à l'intérieur de laquelle était montée la batterie électrique. Barbicane, son chronomètre à la main, comptait les minutes, et jamais elles ne lui parurent si longues, de ces minutes qui semblent non des années, mais des siècles. À 9:50, le capitaine Nicholl et lui s'approchèrent de l'appareil, que le film était en communication avec la galerie du Kilimandjaro. Le sultan, sa cour, la foule des indigènes formaient un immense cercle autour d'eux. Il importait que le coup fût tiré au moment précis, indiqué par les calculs de J.T. Maston, c'est-à-dire à l'instant où le soleil couperait cette ligne équinoxiale qu'il ne quitterait plus désormais dans son orbite apparente autour du sphéroïde terrestre. 5:00, 4:00, 3:00, 2:00, 1:00. Le président Barbicane suivait l'aiguille de sa montre, éclairée par une lanterne que présentait un des contremaîtres, tandis que le capitaine Nicholl, son doigt levé sur le bouton de l'appareil, se tenait prêt à fermer le circuit du courant électrique. Plus que 20 secondes, plus que 10, plus que 5, plus qu'1. On n'eût pas saisi le plus léger tremblement dans la main de cet impassible Nicholl. Son collègue et lui n'étaient pas plus émus qu'au moment où ils attendaient, enfermés dans leurs projectiles, que la Columbiade les envoya dans les régions lunaires. « Feu !» cria le président Barbicane. Et l'index du capitaine Nicholl pressa le bouton. Détonation effroyable, dont les échos propagèrent les roulements jusqu'aux dernières limites de l'horizon du Wamasai. Sifflement suraigu d'une masse qui traversa la couche d'air sous la poussée de milliards de litres de gaz, développée par la déflagration instantanée de 2000 tonnes de mélimélonite. On eût dit qu'il passait à la surface de la terre un de ces météores dans lequel s'accumulent toutes les violences de la nature. Et l'effet n'eût pas été plus terrible quand tous les canons de toutes les artilleries du globe se seraient joints à toutes les foudres du ciel pour tonner ensemble.